Bon matin, tout le monde. Bienvenue à l'Église de l'Espoir. C'est toute une joie pour moi de pouvoir porter la parole ce matin. Pour la première fois, non pas comme un pasteur invité, mais comme un des pasteurs de l'Église ici, à l'Église de l'Espoir. Fait que mon cœur est emballé. Je suis content d'être là pour ça. Merci pour votre confiance et merci pour vos prières aussi pour le projet, pour l'implantation de l'Église d'Oxa. Dieu fait des belles choses au milieu de notre groupe en ce moment. On a plusieurs personnes qui sont en train de passer à travers un cours de fondement de la foi. Plusieurs personnes qui nous ont manifesté un désir de joindre l'implantation aussi. On sent dans la communauté, on a commencé à être formé pour l'évangélisation. On est à l'atelier populaire de Brossard à chaque semaine, où est-ce qu'on peut connecter avec des non-croyants, où est-ce qu'on peut apporter la lumière, l'évangile, là où est-ce que peut-être il n'est pas souvent entendu. Et je vous demanderai de continuer à prier. Priez pour qu'il y ait des conversions. Priez pour qu'il y ait des gens dans la ville directement de Brossard qui viennent à connaître notre Sauveur et que Dieu rajoute à son Église les personnes qui sauvent. Parce que le monde dans lequel on est en ce moment en a tellement besoin. En ce moment, avec la pandémie, puis à travers toutes les choses qui se passent, il y a comme un voile sombre qui est mis sur les yeux de tellement de gens pour jeter leur regard sur le monde à travers un voile qui est tellement sombre, de penser qu'il n'y a rien de bon qui nous attend dans le futur. C'est comme si tout à coup, on commence à penser que ça y est, et on a beau faire des efforts, on a beau se donner à 100%, mais il n'y a rien de bon qui va ressortir de tout ça. En vrai, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pas nouveau. Peut-être qu'on le voit encore plus aujourd'hui. Mais d'avoir cette vision cynique sur le monde, où est-ce qu'on regarde le monde avec un regard comme si chaque bonne nouvelle ou chaque bonne chose qui arrive dans notre vie était attachée avec un gros élastique à un gros boulet de canon. Puis qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui arrive, on s'attend à recevoir le boulet tout de suite après d'en face. Comme si, à travers toutes les choses qui se passent en ce moment, on évalue le monde avec ce regard cynique-là. Si on pense à « OK, on a trouvé un vaccin, mais le virus va muter. OK, peut-être que ça va mieux maintenant à mon travail, mais je vais avoir des problèmes à la maison dans pas long. OK, je passe des temps exceptionnels avec mon épouse et notre relation est en train de grandir, mais je m'éloigne d'un de mes enfants. Il y a des belles choses qui se passent dans ma vie et on s'attend tout le temps à ce que le boulet nous reviennent dans le visage. Et attention, ici, je ne m'adresse pas juste à des non-croyants. Je parle des chrétiens. Je suis le premier à avoir un regard trop souvent cynique sur le monde. Trop souvent à m'attendre au coup de bâton de baseball d'un dent après que quelque chose de bon soit arrivé dans ma vie. Et la raison est simple. Paul David Tripp va dire que la raison, c'est parce qu'en quelque part, on fait de l'amnésie spirituelle. On oublie à quel point on est gardé, protégé, à quel point on est assuré en Christ, d'un futur qui n'est pas noir et sombre et négatif, mais pour la vie éternelle avec Dieu, là où est-ce qu'il n'y a plus jamais de souffrance, là où est-ce qu'il n'y a plus jamais de péché, plus jamais de guerre et toutes ces choses qui nous affectent tellement. Fait que je m'adresse autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Ce matin, on regarde au texte dans Jean 10, on continue la série, on regarde au verset 22 à 42 de Jean 10, et on va voir ensemble à quel point Jésus vient nous rappeler ou nous refocuser les yeux à la bonne place, nous ramener cette assurance-là dans notre cœur que ce n'est pas obligé d'aller mal, que ce n'est pas obligé d'avoir une fin tragique à l'histoire, mais qu'il peut y avoir une fin qui est absolument merveilleuse. Si nous, les croyants, on lutte avec le fait que peut-être il n'y a rien de vraiment bon qui arrive, si une fois de temps en temps nos yeux dérogent puis qu'on fait de l'amnésie spirituelle puis qu'on oublie qu'à la fin, il y a quelque chose de bon, qui surpasse tout le mal qu'on a pu vivre sur la terre, imaginez à quel point ceux qui ne connaissent pas Christ vivent ça. Ceux qui sont sans espoir. Mon cœur était brisé là, à peu près 2 semaines quand j'ai entendu dire que dans ma ville natale à Drummondville, il y a 3 jeunes de 10 ans et 11 ans, 2 de 10 ans et 1 de 11 ans, qui se sont entendus ensemble pour commettre un pacte pour s'enlever la vie. 10 ans et 11 ans. La détresse qui peut habiter le cœur humain face à l'avenir. Ici, dans le texte, on va voir l'assurance qui nous est promise. Cette assurance-là de la vie éternelle en Christ. Donc, si vous retenez une chose aujourd'hui, voici l'idée principale du texte de ce matin, du message d'aujourd'hui, qui est la foi en Jésus nous place en sécurité entre les mains de celui qui est plus grand que tous pour nous assurer la vie éternelle sans possibilité de périr. La foi en Jésus nous place en sécurité entre les mains de celui qui est plus grand que tous pour nous assurer la vie éternelle sans possibilité de périr. Que Dieu puisse venir faire cet impact-là dans notre cœur ce matin. Nous assurer de cette promesse qu'on a en Christ pour la vie éternelle. Laissez-moi prier, puis ensuite on va écouter la lecture du texte. Éternel, je m'appuie sur cette vérité que n'es pas limité par l'espace et le temps. Je m'appuie sur cette vérité que tu es tout puissant, que tu es présent partout, tout le temps, pleinement. Et que ce matin, ce n'est pas parce que moi je suis ici à Longueuil et que les autres sont dans leur foyer chez eux que tu n'es pas autant avec eux que tu l'es avec nous ici. Et Père, je te prie, envoie ton esprit. Agis dans le cœur de plusieurs ce matin. Tu vois les personnes qui sont tellement découragées, qui ont de la difficulté à voir le prochain pas qui va être fait, qui ont de la misère à voir peut-être qu'est-ce qui peut arriver de bon encore devant nous, mais qui pensent que tout ce qui reste, c'est juste une série de catastrophes qui vont arriver une après l'autre. Seigneur, je te prie de venir encourager ceux qui ont perdu le focus peut-être sur cette espérance éternelle, solide, vivante, cette encre de notre âme qu'on a en Christ. Mais d'aussi venir peut-être donner cet espoir, infuser l'espoir dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas du tout et qui nous écoutent en ce moment. On veut entendre ta voix ce matin. Glorifie-toi à travers ce temps, alors qu'on ouvre ta parole et qu'on t'écoute nous parler. On te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen.
Semaine vient de l'Évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 22 à 42, dans la nouvelle édition de Genève. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus lui répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux? » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes? » Et cela parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui.
Merci Esther. Donc Jean 10, les versets 22 à 42. Ici, le verset central du texte, le verset qui vient nous mettre vraiment le cœur de ce que Jésus est en train de dire est réellement le verset 28. Le verset 28 qui dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Gardez ça en tête, OK? Alors qu'on développe le message et qu'on focus sur l'assurance qu'on a en Christ parce qu'on est ses brebis, on va développer le message basé sur ce verset-là, avec le premier point tout simple. Si je possède cette assurance-là, et comment je fais pour avoir cette assurance dans mon cœur que je possède cette assurance-là en Jésus? Je possède cette assurance lorsque j'entends sa voix. Suis-le, versets 22 à 29. Ici, on nous dit qu'on est en train de célébrer une fête juive, la fête de la dédicace, et que c'est l'hiver, il fait froid, c'est pour ça que Jésus est en train de marcher dans le temple, sous le portique de Salomon. Et là, les gens viennent vers lui. Ils viennent lui poser cette question à laquelle ils veulent tous avoir une réponse depuis tellement longtemps. Ici, la fête de la dédicace, c'était une fête où est-ce qu'on célébrait la victoire qu'il y avait eue sur un homme qui s'appelait Épiphane, qui était venu et qui avait conquis Jérusalem, qui avait souillé le temple de Dieu, qui avait élevé des idoles dans le temple de Dieu à la place où est-ce qu'on adorait le Dieu d'Israël. Et le peuple juif s'était révolté, il était en colère parce que même les personnes qui pouvaient avoir un simple morceau des Écritures hébraïques étaient condamnées à mort si on le trouvait avec ça. Et tout à coup, il y a un groupe de Juifs qui a commencé à se rebeller, à se lever ensemble avec à leur tête Judas Maccabée, et ils ont renversé ces ennemis-là qui venaient dominer sur le peuple, et ils ont reconquéri le temple, et ils ont redédicacé le temple. C'est pour ça que c'est la fête des dédicaces. Ils ont reconsacré, resanctifié le temple à Dieu, et l'adoration a pu reprendre place. Donc, il y avait toute cette oppression qui était sur eux autres. Et gardez-le en tête, parce qu'on va le voir un petit peu plus loin, comment que ça prend tout son sens à travers Jésus. Mais il y avait cette oppression-là sur le peuple, parce que même si tu possédais un morceau d'écriture, tu pouvais être condamné à mort. Et ils ont resanctifié le temple et ils ont retrouvé la liberté de culte. Et ici, ils arrivent devant Jésus, ils suivent dans le temple alors que Jésus marche à l'abri du froid, probablement avec des disciples qui sont là autour de lui. Les rabbins à l'époque avaient l'habitude d'enseigner en se promenant comme ça dans le temple. Et les Juifs viennent vers lui, ils posent cette question-là. Jésus, on en a assez de tes histoires, puis de tes images, puis de tes paraboles. Dis-nous-le franchement. Si t'es le Christ, fais juste nous le dire. Arrête de tourner autour du pont. On a assez d'entendre parler des images de pain vivant, puis de vignes, puis de branches, puis de bergers, puis de brebis. Dis-nous-le. Est-ce que t'es le Christ, oui ou non? Et Jésus va leur faire une réponse, mais vraiment pas comme eux s'y attendaient. Jésus va leur dire, franchement, mais il va garder son image de berger de brebis, puis il va aller beaucoup plus loin que ce qu'eux avaient en tête quand ils pensaient à ce qui était le Messie. On commence à pointer, premièrement en répondant, il commence à leur pointer vers un problème qui est vraiment très profond ici. Au verset 25, il leur répond, « OK, vous voulez le savoir? » Jésus répond, il dit, « Je vous l'ai dit. Non seulement je vous l'ai dit, mais je vous l'ai montré. Je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. » Et je vous l'ai montré, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Et Jésus va dire, la raison est simple. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Voici le fait, la vérité. Vous ne croyez pas. Et voici la raison pour laquelle vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Jésus est en train de dire, tout de suite après, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Il y a deux catégories ici. Jésus dit, j'ai beau vous le dire, je pourrais l'écrire sur un billboard que je suis le Messie, je pourrais vous le mettre en noir sur blanc, vous le montrer, je vous le montre par mes œuvres, je vous le dis avec ma bouche, mais vous ne me croyez pas. Puis il y a vous qui ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis, et il y a mes brebis qui me croient. Et mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Au milieu de toute la confusion, au milieu de l'incrédulité, au milieu de l'opposition, puis des gens qui ne veulent absolument pas croire que Jésus est le Messie, les brebis de Jésus entendent sa voix. Et une des premières choses qu'on peut remarquer dans un texte comme ça, c'est l'assurance qu'on a pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller porter le message aux perdus. Tu as une assurance ici de dire qu'à travers ta bouche, lorsque tu proclames la parole de Dieu, lorsque tu proclames l'Évangile, la voix du Maître est entendue. Il y a beau avoir de l'opposition, il y a beau avoir des gens qui refusent et qui repoussent et qui rejettent le Christ, mais la voix du Maître va toujours faire son chemin jusqu'à l'oreille de sa brebis. Elle va entendre sa voix et elle va le suivre. Ça devrait nous donner cette assurance-là de savoir que le message de Dieu est tellement efficace, devrait nous donner une assurance d'aller puis d'apporter cette bonne nouvelle-là. Des fois, on va dire, mais ceux qui croient à cet appel efficace-là, au fait que quand Dieu appelle, les brebis répondent absolument, ça fait en sorte qu'on ne va pas évangéliser ou qu'on ne va pas sortir. Au contraire, ça te donne une assurance que si tu sors avec la parole de Dieu, la parole va agir. Et les enfants de Dieu, les brebis de Dieu vont venir à lui. C'est l'efficacité de l'évangélisation qui est assurée à travers cette promesse-là de Jésus. Sauf qu'ici, la vérité concernant Jésus ne trouve pas racine dans le camp des Juifs. ils s'y opposent. Puis si on suit bien l'évangile de Jean, on se rend compte que les Juifs, en réalité, quand ils s'approchent de lui pour poser cette question-là, ils ne veulent pas vraiment avoir la vraie réponse. Ils s'approchent de lui, puis ils viennent lui demander si c'est lui qui est le Messie. Mais ils ne veulent pas vraiment entendre la réponse que Jésus a donnée. Ils veulent juste trouver une réponse pour pouvoir le condamner une fois de plus. On le voit parce que juste un tout petit peu avant, dans le chapitre 9, le verset 22, il nous est dit clairement que les Juifs avaient convenu. Vous savez cette histoire-là où est-ce que l'homme qui était un aveugle-né a retrouvé la vue? Et là, les autorités religieuses se sont entendues ensemble pour dire que ce gars-là disait n'importe quoi, que Jésus était un pécheur. Et ils ont convenu ensemble. Les parents de cet homme-là viennent pour témoigner en disant « Oui, mon fils était aveugle quand il est né, mais ils ne disent pas que c'est Jésus parce qu'ils ont peur. » Parce qu'il nous est dit que les autorités religieuses avaient déjà décidé que si quelqu'un mettait sa foi en Jésus, que si quelqu'un croyait que Jésus était le Messie, il allait être exclu de la synagogue. C'est fort. Leur position est déjà prise. Ils viennent, ils posent une question à Jésus, et peu importe la réponse qui va sortir de la bouche de Jésus, leur plan est déjà fait, on va le condamner. On n'écoutera pas ce qu'il y a à dire. Si on va juste un petit peu plus loin, le verset 28 du chapitre 11, on voit que les Juifs avaient peur que les Romains viennent les envahir et détruire leur ville et leur nation, au verset 28. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Il y avait peur que si les gens commencent à croire que Jésus est le Messie, le roi d'Israël, que César n'allait pas être content, puis qu'il allait venir détruire leur ville. Fait qu'ils se disent, on est mieux de s'assurer que les gens ne croient pas que ce gars-là est vraiment qui dit qui. Parce que sinon, ils vont venir détruire notre ville. Leur pensée est déjà faite. Et je suis sûr que vous avez dans votre entourage des conversations comme celle-là des fois. Tu sais, des gens qui vous ont déjà mis dans une case, des gens qui ont déjà leur idée à propos de vous. Peu importe ce qui sort de votre bouche, peu importe l'explication, comment on parle, ils vous ont déjà casé. Vous êtes déjà un méchant, vous êtes déjà une personne qui est opposée. Ils sont déjà contre vous, ils préparent déjà leur argument pour vous obstiner avant même d'avoir entendu ce qui sort de votre bouche. Jésus le sait. Et Jésus, il sait que ce genre de personnes-là, ils ne veulent rien entendre. Et il se tourne puis il s'adresse à ses brebis. Il nous dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Et vous vous reconnaissez ce matin. Si vous êtes un disciple de Christ, vous lisez ce texte-là, vous entendez le message, vous reconnaissez qui est votre berger, vous reconnaissez sa voix, vous l'entendez, vous le suivez. Mais peut-être que pour toi, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus aujourd'hui, que tu entends sa parole. Et il y a cette conception-là, d'un fond, on se dit, OK, mais ça veut dire que si ceux qui ne croient pas, c'est parce qu'ils ne sont pas ses brebis, moi, je ne crois pas en ce moment, ça veut dire que je ne suis pas sa brebis. Je t'inviterais à réfléchir d'une autre manière ou à écouter ceci. On ne reconnaît pas une brebis par le temps qu'elle a passé à ne pas entendre le berger, mais à la réponse qu'elle donne quand elle l'entend, la voix de son berger. Je le répète, OK? On ne reconnaît pas une brebis par le temps qu'elle a passé à ne pas entendre la voix du berger, mais quand elle entend la voix du berger, qu'elle répond à cette voix-là et qu'elle le suit, on reconnaît que c'est une brebis de Dieu. On reconnaît que c'est une brebis de Christ. Donc, regarde pas au reste de ta vie jusqu'à présent en disant, mais moi, j'ai pas cru encore en Jésus, j'ai pas mis ma foi en lui, fait que je suis peut-être déjà catégorisé comme pas brebis, puis je peux pas être sauvé. Mets ta foi en lui aujourd'hui. Si t'entends sa voix aujourd'hui, endurcis pas ton cœur, suis-le. Parce que la promesse qui nous est donnée au verset 28, c'est la vie. Si tu mets ta foi en lui, si tu crois en Jésus, t'as la vie éternelle, la vie dans l'abondance de la grâce de Dieu. La vie, l'amour de Dieu qui se déverse sur nous en Jésus, sans fin. Il parle d'une vie éternelle, là où le péché n'existe plus, là où la douleur n'existe plus, là où la peur de l'avenir n'existe plus, là où la pression des pères n'existe plus, là où il n'y a plus cette anxiété et ce stress de se dire, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Parce que ton avenir est assuré en Christ. Il nous dit non seulement qu'en Jésus, on a la vie éternelle, mais regardez au verset 28 avec moi. Il dit que non seulement on a la vie, mais qu'en lui, c'est impossible de périr. Il nous dit, personne ne peut ravir les brebis de ma main. Jésus n'est pas en train de faire un œuf du genre, viens, embarque dans le bateau de Christ et espère que tu ne vas pas tomber en bas du bateau pendant que tu es dedans. Espère qu'il ne va pas arriver quelque chose qui va faire en sorte que tu vas dériver et que tu vas pouvoir t'échapper de sa main. Jésus dit, si tu es dans la main du berger, il n'y a absolument rien qui peut te ravir de ma main. C'est une assurance qui est certaine. Cette possibilité-là n'est pas là dans la promesse que Jésus nous fait. Il nous dit, si on est une brebis, si on met notre foi en lui, si on entend sa voix et qu'on le suit, on est ici. C'est comme si, ici, au verset 28, il dit, personne ne peut les ravir de ma main. Au verset 29 et 30, il rajoute, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et là, il fait une déclaration au verset 30 qui va choquer tout le monde. Il va dire « Moi et le Père, nous sommes un. » Ici, c'est très clair par la réaction des Juifs de l'époque que Jésus est en train de se faire un avec Dieu. C'est comme s'il traçait une ligne dans le sable où est-ce qu'il dit « D'un côté, il y a l'humanité, puis de l'autre côté, il y a la divinité. Puis moi, je suis de ce côté-là. » Il dit « Si vous croyez en moi, si vous êtes mes brebis, vous êtes ici. » C'est comme s'il y avait la main de Jésus qui nous tenait ici et la main du Père qui était là. « Si vous êtes dans ma main, vous êtes dans la main du Père. Et il n'y a rien qui peut vous ravir de ma main. Nous sommes un. » Et la promesse est que tu vas être dans sa main, que tu vas être gardé jusque dans cette vie éternelle avec Dieu. Est-ce que tu réalises l'assurance que tu as en tant qu'enfant de Dieu? Il est clair pour tous ceux qui l'écoutent que Jésus est en train de dire que si tu es dans sa main, tu es dans la main de Dieu. Il en donne beaucoup plus pour leur argent aux gens qui viennent poser des questions. Es-tu le Messie? Jésus vient démontrer par ses paroles, non, je suis beaucoup plus que ça. Je ne suis pas juste le Messie, je suis le Messie, mais je suis beaucoup plus que ça. Je suis Dieu. Si on se retrouve dans la main de Christ, on est gardé, protégé, peu importe les menaces. Et tellement de fois, on peut avoir ces doutes-là ou ces réflexions où est-ce qu'on se dit, mais s'il arrivait telle et telle chose, est-ce que ce serait possible de m'enlever de la main de Dieu? Avec toutes les choses qu'on voit se passer dans le monde, des lois qui peuvent peut-être être votées en ce moment, des afflictions qui peuvent arriver aux chrétiens, des chrétiens qui sont martyrisés à des endroits dans le monde. Et on regarde à ces choses-là et on se dit, mais si jamais ces choses-là arrivent dans ma vie, est-ce que je vais être capable de tenir ferme ou est-ce que je vais juste tomber loin de la main de Dieu? Est-ce que je vais juste quitter la foi ou abandonner la foi si on menace ma vie? S'il arrive des problèmes, si je perds mon travail, si je suis dans l'affliction à cause de la maladie, si je souffre, si je suis abandonné de tous, s'il y a une pression tellement forte dans notre culture et notre société contre la foi chrétienne, est-ce que je vais être capable de tenir? La réponse, c'est qu'en toi-même, tu ne seras pas capable de tenir. Mais tu n'es pas en toi-même, tu es en Christ. Et si on a la foi en Jésus, on est gardé dans sa main. Et oui, Christ va te garder dans ces moments les plus pires-là. Les croyants qui ont passé à travers toutes sortes de martyrs à travers l'histoire de l'Église n'ont pas été capables de résister par leur propre force parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils étaient gardés dans la main de Dieu. Quelle assurance, quelle promesse, quelle force pour passer à travers toutes les épreuves qu'on peut avoir dans notre vie. De se dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je peux vivre à fond et je peux vivre selon ce que Dieu m'appelle à vivre parce que mon assurance n'est pas dans ces choses-là sur la terre. Mon assurance n'est pas dans mon assurance financière. Mon assurance n'est pas dans l'amour que les autres me portent. Mon assurance n'est pas dans mon travail, mon ministère ou toutes ces choses-là. Mon assurance est en Christ seul. Il me gardera sans aucun doute. On est dans la main toute puissante du Sauveur. As-tu besoin de te rappeler de cette sécurité-là pour toi aujourd'hui qui est son enfant? As-tu besoin de connaître cette assurance-là? Qui t'ancre les deux pieds vraiment solides dans la vie à travers laquelle on passe en ce moment. Si tu veux connaître cette assurance-là, entends la voix du berger un matin qui t'appelle et viens à lui. Il y a un chant qu'on chante à l'église qui est tellement bon, qui a été écrit par les Getty et qui dit « Il me gardera ». Vous allez voir les paroles à l'écran ici. Et je vous le mets à l'écran. Okay? Si vous êtes chez vous, vous pouvez faire l'exercice de juste répéter entre chaque phrase le petit « Il me gardera ». OK? Avec moi. Mais réalisez que ces paroles-là sont vraiment basées sur la parole de Dieu. Ce chant-là a été écrit en regardant la parole de Dieu puis en s'appuyant sur cette promesse-là qu'on est entre les mains du bon berger. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, mais il me gardera. Les rachetés font sa joie. Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi. Il me gardera. Mon âme est en sûreté. Sa promesse, il tiendra. Quel grand prix il a payé. Il me gardera. Et le dernier couplet dit, il a souffert pour ma vie. Christ me gardera. Écoute, Christ a payé à notre place. Dieu le Père a offert ce qu'il y a de plus cher, le trésor des cieux, le Fils bien-aimé du Père a donné sa vie pour nous sauver. Si le Père a donné son Fils, penses-tu qu'il va t'échapper? Il a donné son Fils pour te sauver. Si tu es en lui, il te gardera. Sa justice est accomplie. Il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Et là, toute l'Église éclate en chant, en adoration, en louange, avec le refrain qui dit « il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. » Est-ce que tu crois ça ce matin? Peu importe ce que tu vis, peu importe les difficultés, peu importe les menaces, peu importe le futur, est-ce que tu crois qu'à travers toutes ces choses, Christ te gardera? Mais c'est juste le premier point. Il reste encore beaucoup de versets. Deuxièmement, je possède cette assurance lorsque je crois ses œuvres. Reconnais-le. Jésus est en train de dire que lui et le Père sont un, que si tu es dans sa main, tu es dans la main de Dieu. Les Juifs ne sont pas contents. Ils ramassent des roches pour essayer de commencer à lapider Jésus. Et Jésus va essayer de les retenir un peu en les faisant réfléchir sur leur accusation. Et il dit ici, il l'a dit au verset 25, mais il répète que ses œuvres rendent témoignage de son identité. Alors ici, pendant qu'ils prennent des pierres et qu'ils essaient de les lapider, Jésus remet en question leur accusation en disant, mais vous m'avez vu, vous avez vu toutes les œuvres que je fais et la plupart des miracles, vous avez vu toutes les œuvres que je fais. Pour laquelle de ces œuvres-là me lapidez-vous? Est-ce que vous voulez me mettre à mort parce que j'ai guéri un malade? Est-ce que vous voulez me mettre à mort parce que j'ai multiplié des pains ou parce que j'ai marché sur l'eau, parce que j'ai changé l'eau en vin pour qu'un mariage ne soit pas gâché? Pour laquelle de ces œuvres-là est-ce que vous me condamnez? Jésus essaie de leur faire prendre un pas de recul. Et là, ils tiennent leur roche, ils ne lapident pas ici, ils écoutent encore un petit peu. Jésus leur dit, mais pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Parce que ces œuvres-là rendent témoignage de mon identité. Ici, il y a toute une ironie qu'on voit dans le texte, dans les versets 30 à 39. Toute une ironie. Parce qu'ici, l'accusation qu'on porte envers Jésus, c'est de dire, mais ce n'est pas pour tes œuvres, Jésus, qu'on te condamne. Regardez avec moi au verset 33. Il dit, c'est pas pour tes œuvres qu'on te condamne ou qu'on te lapide, mais c'est pour un blasphème. Parce que toi, écoutez ceci, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voyez-vous l'ironie? Il l'accuse ici parce qu'il dit, mais Jésus qui est un homme, il a grandi à Nazareth, on connaît sa famille, ses frères et tout ça. Lui qui est un simple homme, il se fait l'égal de Dieu. Toi qui es un simple homme, tu te fais Dieu. L'ironie, c'est que, en quelque part, ils ont raison que Jésus est en train de dire que lui et Dieu sont un, qu'il est Dieu, c'est très clair. Eux autres, ils ne se questionnent pas, ils comprennent clairement ce que Jésus est en train de dire. Mais l'ironie, c'est que ce n'est pas un homme, un simple homme qui essaie de se faire l'égal de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est devant eux à ce moment-là. Et Jésus va essayer de leur faire comprendre leur raisonnement, même dans leur propre loi. Lorsque dans le psaume 82, c'est dit, il fait référence à ça quand il parle que, mais dans la loi, c'est écrit que vous êtes des dieux. C'est écrit vous êtes des dieux. Il ne parle pas aux hommes ici dans le psaume 82. Vous pouvez aller le lire, mais il y a un endroit où est-ce que ça dit, et vous mourrez tous comme des hommes. Donc, clairement, il s'adresse à des êtres qui sont supérieurs aux hommes, mais inférieurs à Dieu, et qui reçoivent quand même le nom de Dieu avec un X, avec un petit D. Et ici, Jésus dit, si ils ont appelé ceux qui ont reçu la parole Dieu, à combien plus forte raison la parole fait chair, Dieu fait homme, mérite ce titre. Et eux, ils essaient de venir condamner, ce qui est encore plus ironique dans toute l'histoire. Jean ici, quand on lit l'Évangile de Jean, on se rend compte qu'il écrit à peu près en l'an 90, et 20 ans plus tôt, en l'an 70, le temple à Jérusalem avait été détruit. Et un des points centraux, une des choses qui revient constamment dans l'Évangile de Jean, c'est que Jean essaie de rassurer le cœur de ses lecteurs que ce n'est pas la fin du monde si le temple a été détruit, parce qu'il y a un autre temple beaucoup plus grand. Jésus est le temple de Dieu. Jésus est la parole fait chair. Jésus est le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Maintenant, on n'a plus besoin de se rendre dans un temple pour adorer Dieu. On vient à Christ. Ce qui est ironique, c'est que l'épisode d'Épiphane est en train de se reproduire ici. Oui, il y a quelques centaines d'années, Épiphane est venu, puis il a souillé le temple, il a mis une idole, il a dit que tous ceux qui étaient pour avoir une portion des Écritures allaient mourir. puis l'autorisation, le droit de se rencontrer pour adorer Dieu était détruit. Et ici, tu as le véritable temple qui se tient devant eux. La parole de Dieu fait chair. Et eux qui veulent détruire le vrai lieu d'adoration, le vrai lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est ironique, encore une fois. Jésus est en train de dire, mais ici au verset 35, quand il parle de... au verset 36 plutôt, quand il dit, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Vous célébrez en ce moment la fête où le temple a été sanctifié pour recommencer à adorer Dieu. Et Jésus est là en disant, « Hey, moi j'ai été sanctifié par le Père et envoyé ici. » Autrement dit, cette fête-là, encore une fois, est à propos de moi. C'est moi le vrai lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et vous voulez me lapider, vous êtes en train de faire ce que Épiphane a fait à votre temple. Vous ne comprenez pas qui est devant vous en ce moment. Mais l'histoire ne se termine pas là. Jésus va dire, « Oui, mes œuvres rendent témoignage de moi. Mes œuvres témoignent de qui je suis. » Et on peut se demander, mais quelles œuvres? Quelles œuvres est-ce que Jésus a faites pour témoigner de son identité? Entre autres, les œuvres dont les prophètes ont témoigné. Et pour passer rapidement, juste vous donner Ésaïe 42, où est-ce que le prophète annonce que quand le Messie va venir, il va avoir les aveugles qui vont avoir les yeux qui vont être ouverts. Il va libérer les captifs. Il va être la lumière des nations. Lisez l'Évangile de Jean. Voyez à quel point Jésus parle de lui-même comme étant la lumière des hommes. Jean parle de Jésus comme étant la lumière. Il vient juste de guérir un aveugle né le chapitre précédent. Clairement, il est en train de manifester les œuvres qui témoignent de son identité. Mais au-delà de ça, à travers l'Évangile de Jean, on voit que Jésus performe la guérison d'un aveugle né. Il va guérir des estropiés qui étaient malades depuis 38 ans. Il va renvoyer libre des opprimés. Il va pardonner les péchés. La puissance de Jésus va se manifester sur les éléments de la nature comme changer l'eau en vin, marcher sur l'eau. Dans le chapitre 11, on va voir même qu'il ressuscite les morts. Clairement, les œuvres que Jésus fait, ce n'est pas les œuvres d'un simple homme, mais c'est les œuvres de Dieu. Il est en train de témoigner clairement. Crois à mes œuvres. Si tu... prends le temps d'étudier les œuvres de Jésus, tu vas comprendre qui il est vraiment. Trop souvent, on le balaye du revers de la main. On a déjà fait notre décision à propos de lui. Jésus, les œuvres qu'il a accomplies, manifestent de son identité. Dans Jean 20, versets 30 à 31, on va nous dire justement que tout l'Évangile de Jean a été écrit pour cette raison. Il va dire que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus a pris l'habitude de témoigner de son unité avec le Père, de comment lui et le Père sont un. Et je vous ai mis quelques versets rapidement à l'écran comme ça. Jésus dit, non seulement mes œuvres témoignent de moi, mais ce n'est pas la première fois qu'il dit, moi et le Père sommes un. Il dit, en Jean 3, 2, personne n'a jamais vu Dieu. Écoute, c'est fort comme déclaration. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Tu veux savoir qui est Dieu? Regarde à Jésus. Le Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. L'unité de ce qu'ils font. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Puis on va le voir au chapitre juste après. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Je suis digne du même honneur que celui du Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et dernièrement, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Non, il en reste un autre encore. Il en reste deux autres. Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est très clair. Mes œuvres témoignent de qui je suis. Et si tu ne crois pas qui je suis, en regardant aux œuvres que je fais, il n'y a pas de possibilité d'être sauvé. C'est juste impossible. Si on voit que ce qu'on saisit à propos de qui est Dieu... Et ce qui nous amène à notre dernier point, ce qu'on saisit à propos des œuvres de Christ, des conclusions qu'on en tire, fait en sorte qu'on est assuré ou non d'être dans sa main et d'être gardé jusque dans la vie éternelle. Je passe directement au dernier point. Je possède cette assurance lorsque je reçois la vérité et la transmets. De réaliser qu'une des raisons pourquoi souvent on n'est pas en adoration devant Dieu, une des raisons souvent pourquoi on n'est pas émerveillé par qui il est, ou qu'on ne possède pas peut-être cette assurance-là solide en Christ, c'est peut-être qu'on a arrêté de regarder à ce qu'il a fait. Prends le temps d'ouvrir la Bible, regarde à ce que Jésus a fait, et tu vas peut-être retrouver cette joie-là de ton salut, cette assurance-là que tu as en lui. Mais ici, il ne termine pas avec des gens incrédules. Si l'histoire se terminait au verset 39, on pourrait se dire, bon, c'est quand même une aventure assez plate qui s'est passée ici. Les gens n'ont pas cru, ils l'ont rejeté. Encore une fois, on nous dit au verset 39 qu'avec ce que Jésus vient de dire en disant que lui et le Père étaient un, ils ont cherché à le saisir, mais il s'est échappé. Il nous donne les versets 40 à 42. Jésus s'en va de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent. Jean termine avec un espoir extraordinaire. Jean termine en disant, ça finit pas là, OK? Parce qu'il n'y a pas juste ceux qui ne sont pas mes brebis, qui refusent, qui rejettent, qui repoussent et qui ont déjà décidé de me condamner. Mais il y a ceux qui décident de mettre leur foi en Christ. Il y a ceux qui croient. Il y a mes brebis qui entendent ma voix. Et quand ils l'entendent, ils croient. Et ici, dans les versets 40 à 42, des petites pépites d'or pour lesquelles mon cœur était tellement encouragé cette semaine pendant que j'étudiais le texte. Il nous a dit que beaucoup de gens croient en lui. Plusieurs croient en lui. Beaucoup viennent à lui et plusieurs croient. Et trois choses qui m'encouragent super gros. Premièrement, ils viennent à Jésus à cause du témoignage de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a prêché dans cet endroit-là au Jourdain. Et le témoignage de Jean-Baptiste est resté, puis il y a eu un impact. Puis Jésus arrive, puis ces gens-là se rappellent du témoignage que Jean-Baptiste a rendu de Jésus. Puis ils croient en lui. Deuxièmement, une chose qui m'encourage, c'est que le ministère de Jean a eu un impact que lui-même n'aura sûrement jamais vu. Et c'est encourageant pour mon cœur. C'est encourageant, ça devrait être encourageant pour chacun de nos cœurs en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux partager la parole de Dieu avec des gens autour de toi. Tu peux partager la parole de Dieu avec ta famille, avec des amis. Puis jamais voir de fruits. Puis te demander, ça a-tu servi à rien tout ça? Mais s'il est clair que le témoignage que Jean-Baptiste a rendu a porté du fruit, même si lui, il ne l'a probablement jamais vu. Et la dernière chose, c'est juste l'héritage, tout un témoignage à la fidélité de Jean. Ce serait tellement une phrase que j'aimerais voir sur ma pierre tombale un jour. Si ma femme m'écoute en ce moment, elle retient ça. Mais ici, au verset 41, quand il dit tout ce que Jean, ce que les gens ils donnent comme témoignage de Jean-Baptiste, c'est que tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Jean n'a pas été celui qui a fait toutes sortes de miracles puis qui a été vu comme un gars tellement extraordinaire puis tellement cool que les gens applaudissaient. Jean était un gars bizarre qui prêchait dans le désert habillé avec une peau de chameau et qui prêchait la repentance. Mais lorsque les yeux des gens se sont ouverts sur Jésus, on dit « Tout ce que cet homme-là nous a dit était vrai. » Ma prière est que Dieu élève encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont avoir ce cœur-là, de dire « Peu importe ce que les gens pensent de moi, ou est-ce qu'on va avoir des églises où les gens, et peut-être des pasteurs qui peuvent m'écouter en ce moment, de dire, on ne veut pas avoir des églises où tout ce qui compte, c'est que les gens qui viennent en avant ont une certaine coolness, puis qu'ils sont vraiment à la mode et qu'ils sont vraiment drôles. Et on ne veut pas juste faire du divertissement quand on fait l'église. On veut prêcher la parole de Dieu fidèlement parce qu'on croit que c'est ce message-là qui sauve des vies. Et ma prière, c'est que Dieu élève des gens comme Jean-Baptiste, qui proclament la parole de Dieu fidèlement et qu'on puisse rendre ce témoignage-là de nous. Ces personnes-là, c'est des gens qui disaient la vérité à propos de Christ. Même s'ils n'ont pas été des gens extraordinaires et qui faisaient des miracles. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en qui se trouve le salut. Ma prière est que ce soit la même chose même avec l'Église de l'Espoir ici. Que peut-être un jour, le témoignage qui soit donné de cette Église, ce ne soit pas de dire cette église-là, c'est une église où ce qui se passe, toutes sortes de miracles. Où est-ce qu'on va écouter un temps de louange maintenant, puis où est-ce que les musiciens sont tellement, tellement rock on, sont tellement cool. Les choses qui se passent sont tellement hype. Tu vas à cette église-là, là, puis tu es ébloui en disant c'est tellement génial et divertissant d'aller à l'église de l'espoir. Mais où est-ce que les gens vont rendre ce témoignage? L'église de l'espoir, c'est une église où est-ce que tout ce qui est dit à propos de Jésus est vrai, puis que la fin du verset 42 s'applique pour la ville de Longueuil. Et plusieurs dans ce lieu crurent en lui. Amen. Laissez-moi prier et on va chanter quelques chants. Éternel, je te remercie pour ta parole puissante. Je te remercie pour cette assurance-là qu'on a en Jésus. Oui, c'est vrai, si on met notre foi en toi, si on répond à ton appel, si on entend ta voix et qu'on te suit, on a cette assurance-là qu'on est entre les mains de Dieu, qu'on est protégé, qu'on est gardé, qu'on est préservé jusque dans la vie éternelle et qu'on n'a pas à craindre de tomber loin de toi, qu'on n'a pas à craindre, Seigneur, que les événements qui vont arriver dans notre vie autour de nous vont nous amener à nous éloigner de la seule vraie assurance qu'on possède. Parce que ce n'est pas nous et dans notre propre force qu'on est gardé, mais c'est toi qui nous tiens dans ta main jusqu'au bout. Seigneur, que nos cœurs se réjouissent et qu'on puisse même être encouragés à aller vers les autres avec le message d'espoir qu'on a en Jésus. En sachant que lorsque tes brebis entendent ta voix et te suivent, Seigneur, de savoir que ce n'est pas parce qu'on prêche bien ou parce qu'on est des bons apologètes, mais parce qu'on prêche ta parole, Seigneur, que tes brebis entendent ta voix et qu'ils te suivent. Fais ton œuvre, Seigneur, que ici, dans la ville de Longueuil, dans la ville de Brossard, sur la rive sud de Montréal, on puisse entendre dire que dans ce lieu-là, beaucoup crurent en ton nom à cause du témoignage de tes disciples fidèles. Amen.